Le Mag Loisir Week-end sur France Bleu, Arnold Derek.
Bonjour à toutes et tous, ravi de vous retrouver pour ce premier Mag Loisir du mois de juin. En compagnie d'une équipe sur Voltaire.
Ouais,
je peux vous le dire, il y a de l'envie dans cette équipe de gagnants. Il y a même de l'envie d'avoir envie de partager avec vous de belles découvertes durant les 30 prochaines minutes. Il y aura l'envie de musique avec Eric Bastien.
Bonjour.
Il y aura l'envie de télé, Patrice Gascoin.
Bonjour.
Il y aura l'envie de le sport quand même. Mais si, il y aura l'envie de sport avec Vanessa Lambert.
Bonjour.
L'envie de cinéma, Ségolène Aluni.
Bonjour à tous.
Et puis Frédéric Le Ternier.
Bonjour quand même.
Voilà, l'envie de conseil lecture, c'est d'ailleurs juste après ce sommaire qu'on vous retrouvera, Frédéric. Vous nous présenterez un livre étonnant écrit par une collègue de France Bleu.
Tout à fait, Audrey Tordelli, voilà, animatrice sur France Bleu.
Gainsbourg sur le divan.
Et je vous parlerai aussi du Salon du Livre de Nice qui se déroule en ce moment.
Vous imaginez l'état du divan après le passage de Gainsbourg, les trous de clopes, les taches de pastis, budget pressing. Bref, le week-end vous allez au cinéma et peut-être en avez-vous marre de vous changer les idées, de rire ou de rêver. Eh bien, restez avec nous pour l'actu ciné de Ségolène Aluni. Vous nous présenterez le film Salaud de pauvre.
Oui. En fait, c'est un film à sketch, donc ça va être drôle, réalisé par 12 cinéastes qui parlent de la pauvreté de manière complètement décalée pour mieux la dénoncer. Et c'est super.
Voilà, quand le week-end se passe trop bien, pensez Ségolène Aluni, elle vous met tout ça par terre en deux minutes. Événement football ce soir avec une finale de Ligue des Champions 100% British. C'est ce qu'on va voir avec vous dans l'actu sport, Vanessa Lambert.
Ouais, une finale que personne n'attendait, mais une finale de rêve et on va apprendre à bien prononcer Tottenham et Liverpool.
Yeah. Oh. Bravo, voilà. Bravo. Verder Rage, c'est le titre d'un très bon documentaire que France 5 consacre à une enquête auprès d'une partie de la population sud-africaine menacée par la pollution liée à l'exploitation des mines d'or. Et la phrase est trop longue, Patricia Spoin.
Oui, oui, c'est un petit peu dans le désordre tout ça, mais on va tout remettre dans l'ordre avec Verder Rage, c'est du journalisme engagé comme on n'en fait plus.
Enfin, pour clore ce Mag Loisir du samedi, celui que les provinciaux, surnomment affectueusement Lou Pénardou, Eric Bastien, et pour l'actu musique, vous avez convoqué Ed Sheeran, le fils de Chico, qui se lance également dans les New Gypsies, qui d'autre?
Eh bien, il y aura deux artistes françaises qui ont eu les honneurs cette semaine du New York Times, De qui s'agit-il? Restez avec nous.
Inutile de vous dire que vous allez passer un bon moment avec l'équipe du Mag Loisir sur France Bleu et ça démarre maintenant.
France Bleu, le Mag Loisir Week-end.
Le Mag Loisir Week-end avec le conseil lecture de Frédéric Le Ternier. On va commencer avec la sortie d'un ouvrage consacré à l'homme à la tête de chou.
Oui, et ça fait 50 ans déjà que Jane Birkin et Serge Gainsbourg chantaient ça.
Sois sommé.
Mais cette date anniversaire n'est pas un prétexte. En fait, ce que j'ai aimé dans Gainsbourg sur le divan d'Audrey Tordelli et Joseph Agostini, c'est l'originalité du traitement de leur sujet. Parce qu'on pourrait se dire franchement qu'on a déjà tout écrit sur Gainsbourg, que les hommages, ils ont été tellement nombreux qu'on en est presque écœuré. Et pourtant.
Bah alors dites-nous, Frédéric, qu'est-ce qui change ici?
L'angle, et c'est ça qui est important. Audrey Tordelli, en fait, se met dans la tête de Gainsbourg. Elle écrit à la première personne, donc le jeu, hein, pour ceux qui seraient perdus. Exercice ô combien difficile, mais elle maîtrise. Très vite, on oublie et on se surprend à mieux comprendre la personnalité complexe de Gainsbourg et de Gainsbar aussi, les failles de l'homme, ses provocations, ses convictions.
Oui, le divan c'est quand même plutôt pour la psychanalyse,
mais
non?
Oui, oui, en effet, mais c'est le psychologue clinicien Joseph Agostini, c'est là qu'il intervient, qui répond aux réflexions que Gainsbourg se fait. D'ailleurs, il avait déjà écrit Dalida sur le divan.
Alors, vous voulez dire que l'ouvrage est divisé en deux parties?
Précisément. La première partie, c'est donc le cheminement de Gainsbourg face à ses choix, face à sa vie, ses questionnements. Et la seconde, on l'imagine lors d'une séance avec un psy. On passe du je au vous pour avoir différents éclairages. Et puis, il y a aussi forcément beaucoup de citations du chanteur, des textes à lui sont apposés dans l'ouvrage. Ce que j'ai vraiment aimé, c'est que c'est pas non plus une ode à Gainsbourg, vous voyez. Il y a ses côtés les plus troubles qui sont développés également. Pour ceux qui connaissent finalement par cœur l'homme et l'œuvre, ils vont apprécier le changement de traitement pour lui rendre hommage. Et pour les autres, eh bien, c'est une excellente façon de découvrir la palette du talent d'un des, quand même il faut bien le dire, plus grands chanteurs et paroliers français. On y retrouve aussi la magie des textes et des mélodies. On se surprend à fredonner durant notre lecture. Donc bravo à eux deux et petit clin d'œil à Audrey Tordelli, qui vous le disiez, était aussi animatrice sur France Bleu à 16h.
Voilà, Gainsbourg sur le divan, signé Audrey Tordelli, Joseph Agostini. Quel est l'éditeur? Rappelez-nous s'il vous plaît.
Alors,
Frédéric
Le Ternier. Alors c'est En Volume Société.
Voilà, vous souhaitiez également nous signaler un salon qui se tient ce week-end sur la Côte d'Azur.
Oui, en ce moment même, c'est le Festival du Livre de Nice qui est placé sous le signe du cinéma, avec en président d'honneur le réalisateur Jean-Jacques Annaud, qui nous dit les écrivains aiment les cinéastes et réciproquement. Alors, il y aura aussi la remise du prix Nice Baie des Anges, décerné à Daniel Picouli pour son roman 90 secondes. C'est un roman qui nous raconte l'épopée terrifiante de la montagne pelée.
Et qui sont les auteurs présents à Nice ?
Très nombreux, évidemment, un très gros salon à Nice, mais pour les plus attendus, sachez qu'il y aura Alexandre Jardin, Philippe Besson, Christine Angot, Franck Tillièze, Marc Lévy, Michel Onfray, Grégoire Delcourt, etc., etc.
Voilà, alors il y aura des rencontres, des débats.
Et comment, dans toute la ville en plus, Arnold, hein, à l'Opéra de Nice, à la Cinémathèque ou encore au Jardin Albert Ier. Dans tout ce programme chargé, ce que je retiens, c'est le superbe concert hommage à Michel Legrand qui a lieu ce soir à 18h à l'Opéra de Nice. Legrand qui avait écrit les mélodies du film de Jacques Demy, La Baie des Anges. Incroyable, tout se recoupe. Donc en fait, il y a aussi, et c'est bon de le savoir, de talentueux auteurs de BD avec notamment Philippe Berkovici et le 40e épisode des Aventures des Femmes en Blanc, ça cartonne toujours. Il y a de la littérature jeunesse, bref, si vous êtes dans les Alpes-Maritimes, ne manquez pas ce rendez-vous littéraire de haute volée ce week-end.
Eh bien merci beaucoup Frédéric Le Ternier pour ces deux conseils, hein, le Salon du Livre à Nice si vous êtes dans la région Alpes-Maritimes, et puis Gainsbourg sur le divan, j'attends qu'il sorte Sardou sur le divan.
Peut-être.
Alors Michel, je suis pour. Bon, fin du livre. Et voilà.
Le Mag Loisir Week-end sur France Bleu, Arnold Derek.
Eh bien, voilà une niçoise que nous retrouvons tout de suite. C'est Ségolène Avini. Oui, c'est vrai, vous l'êtes. Vous venez de là-bas. Et des studios Victorine.
Exactement, studio mythique.
Bien sûr.
Je suis née dans les studios de cinéma.
D'où l'actu ciné, un film qui ose parler d'un sujet rare aujourd'hui, la pauvreté.
Sujet rare au cinéma, ouais, avec un titre tout à fait cynique, Salaud pauvre. C'est un film à sketch composé de 12 courts-métrages qui abordent la pauvreté sur un ton totalement décalé et sur une idée de Frédéric Marbeuf, un producteur qui a voulu donner une place aux invisibles, à ces laissés pour compte qu'on ne veut pas voir. Alors évidemment, c'est un sujet peu attrayant pour les distributeurs. Frédéric Marbeuf a dû s'occuper lui-même de la distribution en salle.
Alors il me semble que la sortie a d'ailleurs été reportée plusieurs fois.
Bah oui, parce que le film traite de sujets extrêmement sensibles comme le rejet, la misère sexuelle ou encore le chômage. Et il dénonce aussi la banalisation de la pauvreté. Christophe Alévèque, qui a réalisé un des sketchs, a eu à cœur de participer au projet pour cette raison. C'est ce qu'il m'a confié.
On est dans une époque où la pauvreté devient quelque chose de normal. C'est-à-dire que plus personne n'est soit choqué, soit scandalisé, soit outré, soit révolté. C'est... Voilà, y a bien, on entend bien, il faudrait que ça cesse, mais il y a le quota. C'est le quota de pauvres.
Ouais.
On a l'impression que c'est d'une façon assez cynique. C'est pour ça que j'aime bien ce titre, qui porte en lui ce cynisme.
Salaud de pauvre, d'ailleurs, le titre qui est inspiré directement d'une réplique de film. Je ne sais pas si vous vous rappelez.
Alors, bon, quand même.
Regardez, tiens, il ne bouge même plus. Et après ça, ils iront aboyer contre le marché noir. Salaud pauvre.
La traversée de Paris ?
Oh oui ! Éric Bastien ! Oh ! Éric Bastien !
Évidemment, avec Jean Gabin dans La traversée de Paris. On doit la République à ce film que Coluche reprendra ensuite.
Et alors, à quoi ressemblent les sketchs dans ce film ?
Ils ne sont pas tous d'égale valeur, mais ils sont bourrés d'humour, de cynisme aussi, et d'humour absurde surtout. Pour vous donner un exemple, il y a une séquence totalement surréaliste avec Philippe Chevalier, vous savez, de Chevalier et Laspalès. Il interprète un bourgeois qui veut gâter sa femme pour son anniversaire. Un livreur sonne à leur porte de leur villa luxueuse. En fait, il lui a commandé un pauvre pour son anniversaire, pour une location d'une heure. En fait, le pauvre est matérialisé comme un objet de curiosité qui se prête complètement au jeu et qui leur raconte avec le sourire son quotidien, ce qu'il affronte pour survivre dans la rue. Et là, les bourgeois jubilent.
Qu'est-ce que c'est ?
C'est un pauvre.
Tu peux en faire ce que tu veux, sauf l'abîmer, bien sûr.
Elle est où ma soupe, connard ?
Vous voulez taper à SDF pour pouvoir rentrer chez vous ?
Ben oui, où est le problème ?
Coupez ! C'est génial !
Alors, je sais pas si vous avez entendu, il y a Ariel Dombal aussi qui participe au film et qui fait l'ouverture du film dans un sketch signé Patrice Lecomte, où elle interprète une joueuse de casino qui a perdu sa voiture au jeu et qui vient taxer de l'argent à un SDF pour entrer en taxi. Donc voilà, il n'y a pas que des sketchs aussi cyniques, il y en a certains qui sont très poétiques et d'autres hyper émouvants aussi.
Et est-ce qu'on peut s'attendre à un film moralisateur? Parce que c'est le cas ou pas d'ailleurs?
Non, pas du tout. En fait, ce qui est chouette, c'est qu'il n'y a pas de manichéisme. On évite la condescendance dans laquelle aurait pu tomber le projet. Même s'il dénonce évidemment le mépris des classes dominantes sur la pauvreté, on n'est pas dans le schéma du gentil pauvre et du méchant riche.
Quoi. Alors, on signale que c'est un projet également engagé sur le plan financier.
Oui, il faut aller voir Salaud de pauvre parce que tous les bénéfices du film seront reversés au Secours Populaire. Faut savoir qu'il a été réalisé avec très peu de moyens et du coup, une totale liberté aussi dans le ton. Bref, c'est un film libre, une expérience de cinéma insolite qui donne à réfléchir sur notre monde et à redonner aussi une place au laisser pour compte.
Eh bien, merci pour cette recommandation originale, Ségolène Aluny. Salaud de pauvre, produit par Frédéric Marbeuf avec Zabou Bretman. Il y a Ariel Dombal Dombasle, Philippe Chevalier, Christophe Alezvec. C'est en salle la semaine prochaine. On va se retrouver dans un très très court instant pour la suite de ce Mag Loisirs du samedi. Il y aura la finale de la Ligue des Champions avec Vanessa Lambert. Ce sera l'actu sport. On parlera télévision avec Patrice Gascoin, notamment de France 5, un documentaire Vert de rage. Et puis Eric Bastien avec l'actu musique. Deux artistes françaises qui ont eu les honneurs cette semaine du New York Times. Vous saurez qui en fin d'émission. À tout de suite. Merci de rester avec nous pour la suite du Mag Loisirs de ce samedi. Allez, tout de suite, on passe au sport.
France Bleu, le Mag Loisirs week-end.
Et il y a du football ce soir avec ce qui est considéré comme le rendez-vous le plus important de la saison, la finale de la Ligue des Champions. Vanessa Lambert.
Oh là là, que oui, ce soir plus que jamais, nous allons frissonner en écoutant cette petite musique, l'hymne de la Ligue des Champions, que tout amateur de foot qui se respecte a en sonnerie sur son téléphone portable. C'est bon, je l'ai, je suis une vraie.
C'est votre téléphone là.
C'est vraiment ma sonnerie de téléphone.
C'est vraiment votre sonnerie de téléphone, voilà, c'est formidable.
Voilà, voilà. Allez, ce soir on termine donc la saison de foot avec une finale 100% britannique qui va se jouer à Madrid entre Tottenham et Liverpool. Sachant que mercredi dernier c'était déjà une finale 100% british pour la Ligue Europa entre Chelsea et Arsenal. Et oui, les Anglais nous prouvent une fois encore que c'est bien eux qui ont inventé le football et qui le dominent aussi pas mal. Mais alors, c'est quoi la Ligue des Champions, hein ? Je pose cette question aussi parce que mon ami et collègue Frédéric Le Ternier n'a cessé de me demander tout au long de la saison, c'est quoi la différence entre le championnat de Ligue 1, la Coupe de la Ligue des Champions, la Coupe de France, la Coupe du Monde. Et je pense, Frédéric, que vous n'êtes pas la seule.
Je comprends rien.
Alors du foot, il y en a tout le temps, mais la Ligue des Champions, c'est un peu le Graal. C'est la Coupe d'Europe de foot des clubs. C'est pas l'équipe de France ou l'équipe d'Angleterre qui joue, mais bel et bien les clubs. Ce sont les premiers de chaque championnat européen, généralement les 3, 4 ou 5 premiers selon le classement, qui ont le droit de se faire un autre championnat entre les meilleurs clubs européens. Il y a des phases de poule, 12 matchs au total, et ensuite les deux premiers de chaque poule sont qualifiés pour les huitièmes de finale, les quarts de finale, les demi-finales et donc la finale. Ça va, Frédéric?
Ouais, c'est plus clair. Merci,
Vanessa. Non, mais vraiment, c'est très très clair. Alors, un mot sur cette affiche, Vanessa.
Tottenham-Liverpool, une affiche que personne n'avait vu venir. Ben non, généralement, ces dernières années, on misait plutôt sur le Real Madrid ou sur le Barça. On avait aussi beaucoup parlé de la Juventus de Turin avec l'arrivée de Cristiano Ronaldo. On pensait aussi au PSG avec Neymar et Mbappé. Et bien finalement, ce sont les Anglais qui vont nous régaler. Et si Liverpool a l'habitude, avec déjà 5 victoires à son actif en 7 finales, Tottenham, c'est un peu la grande surprise puisque jamais les Hotspurs ne sont arrivés à ce stade de la compétition.
Vanessa Lambert, expliquez-nous un peu qui sont les stars dans chaque équipe.
Alors je vais vous donner un nom de chaque. Du côté de Liverpool, un joueur à retenir, meilleur buteur, meilleur passeur en championnat, il est de retour, l'Égyptien Mohamed Salah. C'est la star de l'équipe. Autre style à Tottenham, l'attraction, c'est Harry Kane, l'attaquant anglais, considéré comme un des meilleurs numéro 9 au monde. Il fait son retour après plusieurs semaines d'absence pour cause de blessure. Et puis, je vous en donne une autre. Celui sur qui vous aurez forcément un œil ce soir, c'est le gardien de Tottenham. Et vous savez pourquoi ?
Hugo Lloris.
Eh ben oui, c'est notre Hugo Lloris. Voilà. Notre petit niçois, on reste à Nice là encore. Et l'autre star, comme toujours avec le foot anglais, c'est évidemment le public, les supporters anglais réputés pour être les plus fervents. Ça chante tout le temps avec des hymnes qui vous mettent la chair de poule. À Tottenham, par exemple, on chante « Glory, glory, Tottenham Hotspurs ». Et à Liverpool, évidemment, c'est un des plus beaux chants de football, peut-être le plus beau, le fameux « You'll never walk alone ». C'est magnifique, ça donne la chair de poule. Et puis la bonne nouvelle, c'est que BFM TV va diffuser la finale en clair et gratuitement ce soir. Ça, c'est une excellente nouvelle. Mais moi, je vous conseille quand même d'aller dans un bar ou dans un pub ce soir. Un petit pub anglais, ce serait sympa parce qu'il faut voir ça au moins une fois dans sa vie, une finale de Ligue des Champions. Même quand on n'aime pas le foot, ça peut vous réconcilier avec le football.
Ah oui, en tout cas, profitez de l'ambiance hein, parce que c'est vrai que là, c'est une finale 100% british. Vous ne risquez rien.
Ah oui, c'est ça, c'est l'avantage. On est pour qui ? Pour les Anglais.
Exactement,
voilà.
Pour les Anglais, merci beaucoup. On revient sur la prononciation de Tottenham.
Tottenham. Tottenham, on ne dit pas le Tottenham.
Ouais, voilà,
on et Liverpool,
pas toutes
on
les
le mange un petit peu, on dit Liverpool.
Mais c'est dingue de d'évacuer toutes ces lettres. C'est pas étonnant qu'ils aient fait le Brexit après les Anglais. Hein, si vous voulez mon avis, allez.
Le Mag Loisir Weekend sur France Bleu, Arnold Derek.
On passe à la télé tout de suite dans ce Mag Loisir du samedi. Patrice Gascoigne, vous vouliez nous parler de la journée mondiale de l'environnement. Elle aura lieu mercredi. Et à cette occasion, France 5 est Vert de Rage.
Eh oui, énorme coup de cœur pour Vert de Rage. C'est le nom d'une collection documentaire qui a été primée un peu partout dans le monde sur France 5, dans laquelle on suit un Français, Martin Boudot, journaliste d'investigation qui enquête sur les grands scandales environnementaux dans le monde. Martin pratique le journalisme engagé. Et en regardant son travail, vous allez voir que ça fait un bien fou. Deux inédits sont à découvrir mercredi soir. Premier doc, les cultures empoisonnées au Paraguay. Alors là, vous me dites, ok, c'est loin le Paraguay, ça me concerne pas trop. Bah si, en fait si. Le Paraguay, c'est un peu l'Eldorado de l'industrie du soja. 96% du soja produit là-bas est exporté, un tiers en Europe, dont 180 000 tonnes en France. Ouais, là, le danger se rapproche un petit peu. Et ce soja, il est génétiquement modifié, bien sûr, mais ça c'est même plus le problème d'ailleurs. Ce soja va servir à nourrir notre bétail, donc les porcs ou les poulets que nous mangeons. Ça y est, le lien entre le Paraguay et nos assiettes est clair, mais le problème, il est plus grave. Martin Boudot.
Le Paraguay, c'est l'un des plus gros fournisseurs de soja au monde. Le soja, c'est surtout notre bétail qui le consomme. Et au fil des années, le soja est devenu quasiment uniquement tourné vers le soja, ce qui a été un bouleversement pour l'ensemble de la population. Surtout que le soja là-bas est cultivé de manière intensive avec énormément d'épandage de pesticides. Il y a des réglementations qui existent, mais elles ne sont pas du tout respectées. C'est-à-dire que les champs sont juste à côté des habitations. Peu à peu, le soja en fait grignote la forêt, grignote les villages, et les villages se retrouvent encerclés littéralement par le soja et par des épandages de pesticides quotidiens, massifs, avec des produits qui sont interdits en Europe, qui sont interdits même aux États-Unis, dans la plupart des pays.
Donc Martin Boudot s'est rendu au Paraguay accompagné d'une équipe de scientifiques. Ensemble, ils ont étudié la contamination des populations, notamment des enfants, par les pesticides. Et le résultat est catastrophique. 46% de l'ADN des enfants vivant près de ces champs, qui sont blindés de pesticides Monsanto, voient leur ADN endommagé. Et les cassures de l'ADN peuvent devenir irréparables et entraîner des maladies. Estella, qui était une scientifique locale, qui jusqu'ici n'était pas du tout entendue, découvre les résultats de cette étude scientifique financée donc par la télévision française. Et elle les partage avec la population d'un village qui est au premier rang dans la lutte.
Nous pensons que l'exposition aux pesticides est responsable de ce chiffre. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, bien sûr, je suis à votre écoute. D'abord, je voulais vous dire que c'est très important que vous soyez venu pour faire cette étude. Nous vous en sommes très reconnaissants. Si je comprends bien, nos enfants ne sont pas encore tous malades, mais ils courent davantage de risques.
Oui, cette étude va vraiment nous aider pour repousser ces champs de soja qui nous préoccupent tant.
Et cette étude, Martin Boudot va pouvoir la donner en main propre à un ministre du Paraguay. Et Stella, la fameuse scientifique locale qu'on vient d'entendre, va enfin être invitée sur tous les plateaux télé pour tirer la sonnette d'alarme grâce à ce travail qui a été fait par l'équipe de France 5 et de Martin Boudot. C'est du journalisme concret, utile, engagé et clairement assumé par Martin Boudot.
Absolument, c'est du journalisme engagé, qui n'est pas forcément classique, mais que j'assume totalement. L'idée, c'est d'être le plus utile possible, de pouvoir documenter la pollution avec des scientifiques, mettre à disposition les résultats de ces analyses aux populations pour qu'elles s'en emparent et qu'elles puissent, elles aussi, faire bouger les choses. On n'est pas des justiciers, on n'a pas envie de devenir des héros, mais simplement de ne pas se contenter d'aller sur place puis de repartir, mais bien de faire bénéficier aux populations notre travail d'investigation. Et oui, pourquoi pas de faire bouger les lignes et faire démarrer un débat national comme ça a été le cas par exemple au Paraguay.
Martin Boudot pour Vert de Rage. Et puis la deuxième enquête nous emmène en Indonésie. Quel est le lien entre les t-shirts que vous avez dans vos placards et l'Indonésie? Eh bien, c'est la rivière Citarum en Indonésie. C'est l'une des plus polluées au monde. Et là aussi, Martin Boudot va réaliser une étude scientifique qui va provoquer une réaction du gouvernement indonésien pour nous prouver à quel point c'est pollué. C'est très concret. Mercredi soir, 20h50 sur France 5.
Eh bien, merci pour ce passionnant documentaire, Patrice Gascoigne, d'avoir fait un petit coup de projecteur sur ce sujet qui nous concerne tous. Hein.
Finalement, oui.
Parce qu'on en voit pas le... Au début, on se dit, mais pourquoi on irait au Paraguay? Mais si, et bien si, visiblement. Merci à vous, on passe tout de suite à la musique.
France Bleu, le Mag Loisir Week-end.
Ah, la musique, il est là, il est en pleine forme.
Ouais.
Il vous retrouve comme chaque week-end sous ce signe de lunettes roses portées sur le front. C'est Eric Bastien.
C'est normal.
On démarre, Eric, avec deux artistes qui cartonnent en France. Ils ont eu, ces artistes, les honneurs du New York Times cette semaine.
Oui, c'est suffisamment rare pour être signalé parce qu'ils sont quand même assez rares, hein, ces artistes, à avoir les honneurs de ce grand journal américain. Alors, en fait, c'est à l'occasion d'une enquête quelques jours après l'Eurovision. Le célèbre quotidien américain a décidé de mettre en lumière 15 chanteurs européens aussi importants musicalement que socialement. On va commencer par la Belgique, on finira par la France. À votre avis, une artiste belge qui cartonne
Angèle,
en France.
Angèle.
Oui, c'est Angèle. Deux victoires de la musique, 250 000 albums pour Brawl. C'est un véritable succès, la tournée des Zéniths cet été. Elle est cette semaine dans le New York Times.
Laisse-moi te chanter.
Bah, si elle passe à la radio, la preuve, successful hein, quand même en ce moment. Vous avez vu?
Ouais, bien joué, bien joué. Hein.
Ça, c'est pour la Belgique. Et puis, la France. Quelle chanteuse française a eu les honneurs du New York Times cette semaine?
Un indice,
rappeuse R&B, pop,
exactement.
Aya Nakamura.
Oui.
Aya Nakamura, c'est une superstar aux Pays-Bas, c'est déjà l'ambassadrice hexagonale sur Spotify.
Aux Pays-Bas, ils aident ça aussi.
C'est pas faux. Mais retenez quand même que Jaja a attiré 367 millions de vues depuis sa sortie. C'est aussi un hymne de la prise de pouvoir féminine. Ses paroles ont été retrouvées sur les pancartes de manifestations en novembre contre le sexisme. Elle a fait Cannes, là, il y a quelques jours. Elle a monté les marches pour la première fois. C'est un succès, c'est complet partout hein, pour Aya Nakamura, qui elle aussi a les honneurs donc, du New York Times cette semaine.
Eh bien, bravo à ces deux artistes. On passe au Royaume-Uni avec Ed Sheeran, qui nous offre un nouveau single.
Un voyage, hein, quand même, aujourd'hui. Un nouveau single très sympathique. Il cartonne avec Divide, une tournée mondiale. Ed Sheeran, un nouvel album. Number 6 Collaboration Project.
Sortira
le 12 juillet prochain. Nouveau single, il s'appelle Cross Me. C'est un subtil mélange de collaboration avec Chance the Rapper et PNB Rock. Oh, yeah. Deux rappeurs très influents aux States.
You cross me.
Un cross me à folle la toile parce que les bookmakers se demandent s'il va battre le record du précédent single de Ed Sheeran qui était Don't Care et qui a été écouté près de 11 millions de fois en 24 heures sur Spotify, qui est un record absolument et absolu pour la plateforme. C'est trop de mon anglais, j'ai pas vraiment compris tout ce que je vous ai dit, mais le single est sympa.
En tout cas, vous l'avez bien prononcé, Ed Sheeran, on dit bien Ed Sheeran.
Hein,
tout comme on dit Jodassin et non Jodassine.
Exactement.
On Allez, on poursuit avec la famille des Gypsy King qui s'agrandit.
Vous connaissez Gypsy King?
Oui.
Bien sûr. Les Gypsy Kings ont trouvé leur héritier formé autour de Mario, qui est le fils de Chico, ou Chico, je sais pas comment vous voulez le prononcer.
Chico?
Ouais, Chico, c'est plutôt dans autre chose. Le groupe New Jitsi se lance dans un premier single, ça s'appelle Sans Amour, on n'est rien. Il y a un premier album qui sortira au mois d'août. Attendez, c'est quand même, ça y va, hein, parce que le fils de Chico, donc, David, c'est le cousin de la famille du célèbre Manitas de Plata. Et puis il y a Tambo, qui a 18 ans, qui est le petit-fils de Chico et arrière-petit-fils de José Reyes.
Il est où, Kenji?
Il s'est perdu en chemin.
Ça va marcher,
ok,
ça.
Ils ont pas encore mué, ça va venir. Ils ont 17 ans, c'est les Kids Gypsy hein, finalement. Ça s'appelle les New Gypsy et c'est les dignes héritiers de Chico et les Gypsy. Ça sent bon la Provence.
Ouais, c'est vrai. Merci beaucoup Eric Bastien pour cet arbre généalogique auquel personne n'a rien compris.
Je suis très connaisseur sur le Gypsy.
Je pense que même du côté de Chico, de Mario, ils se sont dit mais qu'est-ce qu'ils racontent ?
Ils ont même pas écouté d'ailleurs.
Allez savoir. Merci.
France Bleu. Le Magloisir Week-end.
Était-ce Victor Hugo, Paul Claudel ou François Valéry qui un jour a dit « Aimons-nous vivants, n'attendons pas que la mort nous trouve du talent ». En tout cas, il avait raison le bougre. Alors venez prendre du bonheur demain dans le Magloisir dimanche sur France Bleu. Vous y retrouverez nos coups de cœur, nos conseils sport par exemple. Vanessa Lambert, vous allez faire le point demain sur la solitaire du Figaro.
Eh ben oui, ça commence demain, on est au taquet, on sera dans les starting blocks pour la 50e édition de la solitaire du Figaro.
Voilà, évidemment on parle voile, hein, pas d'une personne seule qui lirait le journal. journal. Demain dans le Mag Loisir, vous saurez tout sur les festivals de l'été à ne pas louper dans l'actu musique d'Éric Bastien.
Oui, c'est les plus gros squatteurs des festoches 2019.
Ah là là, comme je me réjouis d'avance à l'idée d'être compressé au milieu d'inconnus ruisselants de sueur en plein cagnard en écoutant de la musique trop forte. Bref, Ségolène Aluni, demain dans votre conseil cinéma, vous nous ferez découvrir un documentaire bouleversant.
Exactement, et on ira dans la nature, dans la Drôme, pour ce documentaire très émouvant qui évoque la perte d'un être cher. Ça s'appelle « Et je choisis de vivre ». Et je vous dirai pourquoi je l'ai choisi.
Un documentaire également dans votre conseil télé de demain, Patrice Gascoigne.
Et oui, il était temps de trouver quelqu'un d'aussi élégant que vous. Je fais mon Éric Bastien, Arnold.
Vous faites très mal.
Eh bien, c'est Alain Chamfort. Je fais venir, moi, monsieur Alain Chamfort, non, s'il vous plaît, dans le magazine.
Je peux faire mieux.
Voilà, ça me va quand même. Frédéric Le Ternier, dans votre conseil lecture, vous allez nous parler d'un documentaire aussi, non ?
Non.
Non.
Voilà. D'un essai, d'un petit traité de philosophie qui est magnifique.
Voilà, merci pour cet effort. Demain, place à la rose et au ballet de Michel Simonet.
Une rose et un ballet. Quelqu'un qui a choisi de vivre différemment, il nous raconte.
Merci de nous avoir suivis. J'espère que l'émission vous a plu, on serait ravis de vous avoir avec nous demain. D'ici là, restez sur France Bleu, prenez soin de vous, on vous embrasse.